Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37, il est parlé d'acquitter. Et juste un petit peu plus haut, verset 35, et vous serez les fils du Très-Haut.
Donc le premier paragraphe que nous avions, que nous avons médité, bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre. Et le deuxième paragraphe, verset 11, nous devons nous aimer l'un l'autre. Mais il y a quelque chose juste avant, et qui fait conclusion et introduction de ce qu'on va dire maintenant. Si Dieu nous aima ainsi. Donc, tout à l'heure, c'était, nous avons la nature divine, donc il n'y a pas de choix, c'est, on aime. Voilà. On aime, c'est un devoir, non seulement un devoir, mais c'est quelque chose qui est naturel, puisque nous avons cette nature de Dieu pour aimer. Maintenant, on pourrait comme dire, mais c'est même un privilège maintenant. Ce que j'étais pas capable de faire, voilà, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir aimer. Non pas en fonction de celui que j'ai à aimer, mais parce que voilà, j'ai cette capacité que Dieu m'a donnée. Et alors, on se rend compte avec le verset 12 qu'il y a un amour, je relis le verset 12, personne ne vit jamais Dieu, si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous, consommé, rendu parfait. Rendu parfait, rendu visible dans ses fruits, dans ses actes. Et on se rend compte que lorsqu'il parle ainsi, il veut dire qu'on arrive à la maturité, on arrive à une manifestation qui ressemble vraiment comme si le Seigneur Jésus qui le vivait en ce moment. Donc pour montrer qu'il y a, en ce que nous disons et ce que dit aussi l'apôtre Jean, c'est qu'il y a quand même toute une progression dans notre vie. Et la clé, le secret, il est dans ce petit mot « demeurer ». Le mot « demeurer » qu'on retrouve de très nombreuses fois dans l'évangile de Jean, 41 fois et 27 fois dans l'épître, ce mot « demeurer ». Donc c'est un mot qui, pour lequel Jean tient ça vraiment sur son cœur. Il veut nous montrer qu'est-ce que ça veut dire « demeurer ». Demeurer, ça démarre déjà par ce qu'on a avec le verset 15, ici, « Quiconque confessera que Jésus est fils de Dieu » demeure en lui. Ça commence donc par la foi. La foi. Non seulement la foi en Dieu, mais aussi cette foi qui m'amène à vivre chaque moment dans une confiance dans ce Dieu qui peut. Et qui peut par moi vivre des choses qui le glorifient. Parce qu'on en est là, dans ce sujet. Montrer Dieu, le Père, dans ce monde qui ne le connaît pas. Comment peut-il s'y retrouver ? Sinon par ma vie. Et c'est pour ça qu'on a un peu honte quand on parle comme ça. Gandhi a dit « Le plus grand obstacle à la progression du christianisme, ce sont les chrétiens eux-mêmes. » Alors donc, ici, dans ce texte, nous voyons cette pensée de demeurer. Demeurer, ça veut dire aussi, quand on a dans le chapitre 2 et au verset 24, « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. » Ça veut dire persévérer. Donc croire, mettre toute notre confiance en ce Dieu qui peut, par moi. Deuxièmement, demeurer, persévérer. Ça veut dire sans doute d'autres choses. Quand on lit dans l'évangile, on voit qui est-ce qui demeure dans la maison. Ce n'est pas l'esclave, c'est le fils, Jean 8. C'est donc qu'il y a une relation privilégiée qui s'appelle aussi, dans le premier chapitre, la communion entre un père et son fils, un partage. Et un partage quotidien, journalier. Comment est-ce que l'on peut grandir justement dans cette relation avec Dieu ? Mais c'est facile et c'est difficile. Facile, parce que cette relation est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment est-ce qu'on peut parler à Dieu ? Par la prière. Pas seulement par des mots exprimés, par cet esprit de prière, jour, moment après moment, dans nos circonstances. Comment est-ce qu'on peut avoir une relation de communion avec le Père, un fils, son Père, d'écouter son Père ? comment me parle-t-il, entre autres, par la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous à la lecture de la parole de Dieu? Je crois me souvenir qu'ici même, il y a très longtemps, notre frère M. Chaudier, pour ceux qui se souviennent de lui, disait, je crois, ça m'avait marqué parce que j'étais un petit peu jeune comme ceux qui sont là-bas au fond, si vous lisez votre Bible un quart d'heure de plus par jour, est-ce que ça fait beaucoup en plus ou un tout petit peu en plus? Question. Donc, prier, lire la parole de Dieu et se tenir vraiment, chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu dans nos circonstances. Et c'est clair que dans cet état d'esprit-là, alors ce que nous voyons ici, vivre l'amour, eh bien, sera quelque chose qui découlera de cette relation.
À propos de beaucoup en plus, quand j'étais, comme tu dis, un peu jeune, j'ai été très marqué dans ma ville et culpabilisé par quelqu'un qui sans cesse parlait de donner une heure avec Jésus. C'est assez facile, il y a un livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies chrétiennes, Une heure avec Jésus. Et ça m'a beaucoup traumatisé parce que mon heure, elle faisait pas 60 minutes. Et puis, dans un autre livre, je ne sais pas si chacun d'entre nous, à cause de ce livre, on se dit « Ah, voilà, tous les jours, je passe une heure pour lire la parole de Dieu et pour prier, tous les jours, je mets une heure de côté. Ah, j'ai quand même accompli une bonne heure. » Puis on va regarder les pauvres frères et sœurs autour qui font un petit quart d'heure par-ci, par-là, comme vraiment des sous-chrétiens. Alors je vous pose une question. Si vous mettez une heure tous les jours à lire la Bible, ça représente combien de temps dans une année? Je fais en faisant 24 heures sur 24, j'enlève les nuits. Ça fait 15 jours. Bon, si je mets les nuits, ça fait un mois. Il nous reste quand même du temps pour nous.
Peut-être revenir sur le petit mot « ainsi ». Bien-aimé, si Dieu nous aima ainsi. Nous n'étions pas aimables, et pourtant Dieu nous a aimés ainsi. La mesure de son amour, c'est le don de la personne du Seigneur Jésus. Et Dieu nous voit à travers ce don. Il ne nous aime pas pour ce que nous sommes, il nous aime parce que son Fils s'est donné lui-même pour nous.
Tout à l'heure, dans l'introduction, Philippe a cité ce passage de l'Évangile selon Jean. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Durant la vie du Seigneur Jésus sur la terre, Dieu a été visible pour les hommes par la vie de son Fils sur la terre. Aujourd'hui, nous avons la pensée de Dieu dans ce verset. Personne ne vit jamais Dieu, mais Dieu peut être visible parmi les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu. Je dis dans la famille de Dieu. Je rappelle, l'enseignement sur l'Église ne se trouve pas dans les écrits de Jean. Ça ne veut pas dire qu'il faut... on fait tous partie de l'Église, on est d'accord, mais dans les relations qu'il y a entre enfants de Dieu, dans ces relations qui sont présentées dans les épîtres, dans les écrits de Jean, c'est des relations de la famille de Dieu, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est rester dans ces... Comment dire, cette relation, elle doit être vivante. Et cette relation, elle doit être marquée par l'amour. Personne ne vit jamais Dieu si nous nous aimons l'un l'autre. Son amour, donc Philippe l'a expliqué tout à l'heure, est rendu parfait et accompli c'est un peu difficile ces termes, mais il y aura une croissance qui va faire que ça va être une plénitude. Et cette plénitude commence par la réalisation toujours plus grande de l'amour de Dieu pour nous, dont les effets vont être de partager cet amour en nous aimant l'un l'autre.
On a de la peine à mesurer cette croissance. Et puis quand on se pose une question, est-ce que j'aime davantage le Seigneur que hier, que l'année dernière? Bon, c'est pas en mesurant nos sentiments et en se prenant le pouls qu'on y arrive. Ça doit dépendre d'autre chose. Alors, le verset qui suit, justement, est là pour nous aider sur ce point. Par ceci, verset 13, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Est-ce que je sais que le Saint-Esprit habite en moi, donné par Dieu? La jeunesse là, vous savez tous répondre oui ou non? Si vous ne savez pas répondre aussi clairement, parlez-en à un frère ou à une sœur ce soir. Mais c'est un point fondamental. On sait qu'on a le Saint-Esprit, pas parce qu'on a des émotions et on se met à sauter, mais parce que la parole nous le dit. Et quand on croit la parole, ayant cru, on est scellé du Saint-Esprit. Ephésiens 1, 13. Et demeurer en Dieu, c'est reconnaître qu'il y a en nous-mêmes cette action du Saint-Esprit. Celui, nous savons que nous demeurons en lui, c'est qu'il nous a donné son esprit. Comment on reconnaît qu'on a le Saint-Esprit? Pratiquement, comment on le vit? C'est quand il occupe notre cœur de Christ. Jean 16, verset 14. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il y a d'autres actions du Saint-Esprit. Mais si Christ grandit dans mon cœur, si la gloire de Christ, l'amour de Christ est quelque chose qui s'impose à moi et dirige ma vie, mes décisions, mes paroles, oui, alors là, on est dans ce cas de demeurer près de Dieu et de progresser par l'action du Saint-Esprit. Et puis comment les autres le voient, c'est peut-être le passage de Galates 5. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la longanimité, la bienveillance, la bonté. Que ce soit une joie pour nous de voir ces fruits dans notre frère, dans notre sœur, c'est que justement quand on voit ces fruits, l'Esprit agit et qu'il demeure en Dieu, dans le sens de ce passage.
Ce que Jean-Luc a dit concernant la manifestation de Dieu, de la vie de Dieu dans l'Église par l'amour des frères et sœurs entre eux, c'est capital. Déjà dans 1 Jean 2, on a les deux preuves de la vie divine dans les versets 5 et 9. C'est quiconque garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement consommé. Et verset 9, celui qui dit qu'il est. Non, verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a point à lui d'occasion de chute. C'est obéir à Dieu et aimer ses frères qui sont deux preuves de la vie divine chez quelqu'un. Et quand on est ensemble, ça se voit dans notre vie communautaire. Et combien on a besoin de faire cette progression dont a parlé Philippe dans la communion et dans le fait de demeurer dans le Seigneur pour que se voit davantage ces fruits de la vie divine dans notre vie.
Et puis il y a toute la tranquillité, toute la paix qui accompagne le fait de recevoir la parole de Dieu qui produit une véritable conviction, qui apaise, qui donne une véritable sécurité, qui nourrit en même temps l'espérance, c'est-à-dire que, bon, ben, il peut arriver tout un tas de choses, je sais qui j'ai cru, je sais qui s'occupe de moi, je sais vers qui je vais, il me voit, il m'entoure, je traverse peut-être des expériences difficiles, mais je sais que dans ces expériences, Dieu va me faire connaître des choses auxquelles je n'aurai jamais accès sans traverser ces expériences. Évidemment, c'est au terme ou au-delà du terme, quelquefois, d'un temps éprouvant que nous entrons dans ces choses-là. Mais regardez bien au verset 14. Nous trouvons justement cela. Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. En quelque sorte, Jean dit, bien voilà, nous faisons le constat en nous. Cet amour, nous en jouissons. Et il y a pour nous une véritable certitude, il n'y a pas de doute du tout sur ces choses-là. Et en quelque sorte, Dieu nous dit, est-ce que vous aussi, vous pouvez dire, oui, je sais, le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde, il m'a trouvé, il est entré en moi dans sa grâce, il a produit un véritable changement en moi, voilà, ça, je le sais, je m'appuie dessus, c'est quelque chose qui compte vraiment, et je le partage avec d'autres. Ce verset apparaît là, un petit peu comme une conclusion de ce que nous avons avant, mais peut-être que si nous n'y touchons pas personnellement avec certitude, c'est que nous n'avons pas parcouru convenablement ce qui précède.
Donc la puissance et la source de, cette vie est dans l'esprit de Dieu qui habite en moi. Et donc c'est vrai que ça amène une expérience personnelle, on peut dire. Hein, le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde, mon sauveur. Mais il y a quelque chose de plus avec le verset 15. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort, il est mort sur la croix. Mais s'il n'est pas le Fils de Dieu, s'il est un homme même très bien, ben même si je crois qu'il a été envoyé pour les péchés, s'il n'est pas parfait lui-même, ça n'aura pas de résultat pour moi. Il faut absolument non seulement croire que le Fils a été envoyé, que Jésus a été envoyé, que Jésus est réellement mort et ressuscité, mais que ce Jésus est le Fils de Dieu. Si nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu, notre foi est vaine aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, quand il disait au verset 31, qui était un peu l'essentiel, la raison, le but de l'évangile, « Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Ce n'est pas n'importe qui a été cloué sur la croix. C'est vraiment le Fils de Dieu, né, qui a été né de l'Esprit Saint, d'une femme, Marie, mais qui n'était pas un enfant d'Adam. Aussi bien soit-il, s'il n'était pas le Fils de Dieu, ma foi serait vaine. Donc réellement, celui qui est appelé Jésus est mort sur la croix, mais Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, son oint, son Christ, mais il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Et cela nous amène, l'Esprit de Dieu en nous, nous amène à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et alors, quiconque le fait, Dieu demeure en lui, et demeure en Dieu et Dieu en lui. Expression extraordinaire. Une union parfaite. Dieu en moi, moi en Dieu. Et si vous vous souvenez de la parabole du cep et des sarments, nous avons la même expression. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est une perfection de lien, une perfection divine. Et si on a besoin de vous le dire encore une fois, quand Dieu fait cette œuvre, eh bien il ne peut pas revenir dessus. Lorsque nous sommes son enfant, nous sommes son enfant pour l'éternité. Comme on nous l'a rappelé, cet enfant et scellé du Saint-Esprit. C'est le gage de la sécurité, de l'assurance définitive et éternelle que nous sommes enfants de Dieu. Et quelle que soit ma vie, ça ne nous encouragera pas à vivre n'importe comment. Au contraire, plus nous entrons dans ces sujets, plus on a envie d'aimer Dieu et de vivre pour lui, de laisser vivre Dieu à travers moi, dans chaque circonstance, pour qu'il puisse accomplir son dessein. S'il m'a choisi avant l'existence du monde, il m'a choisi pour une destinée éternelle, alors à ce moment-là, j'ai ce seul désir qu'il puisse m'utiliser, me transformer, me changer mon esprit, toutes mes pensées, de manière à ce que j'entre dans ce projet de Dieu pour l'éternité, et déjà en étant un témoin sur cette terre. Et c'est une grâce. Voilà. Lui en moi, moi en lui. Perfection. Quelle bénédiction. Finalement, ça a l'air de dire que, comme dans l'histoire du cep et des sarments, s'il n'y a pas de sarment, le cep ne peut pas porter de fruits. Dans un sens, presque ça. Ça veut dire que Dieu, là, dans un sens, il nous dit, j'ai besoin de toi. Vous pouvez faire autrement, mais il a choisi, c'est son choix. J'ai besoin de toi pour me faire connaître au monde aujourd'hui. Eh bien, je mets tout à tout en toi pour que ça marche. Et que vraiment, je sois glorifié, que je sois connu sur cette terre par ta propre vie.
L'expression demeure, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, nous parle d'une habitation définitive, si on peut dire. Il y a des enseignements parmi les chrétiens où, dans un souci de sainteté, on dit que on a cru au Seigneur Jésus. Puis il faut être fidèle, et puis si on n'est pas fidèle jusqu'au bout, on n'est pas sauvé. Et c'est dans des milieux évangéliques que cela est enseigné. Alors je l'ai un peu schématisé, l'enseignement. Ou alors on dit ceci: ah mais Dieu laisse l'homme libre d'accepter ou de refuser le salut. Ça c'est vrai. Quand tu l'as accepté, alors vous savez, on cite Jean 10 par exemple, la brebis dans le creux de la main du berger et dans le couvert par la main de Dieu, quand tu l'as accepté, tu es en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais comme tu es libre, tu peux repartir. La liberté, Dieu te laisse libre de quitter le creux de sa main. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, ce que Dieu a fait, c'est un travail définitif. Il nous a donné l'Esprit de Dieu, il est dans le croyant pour être avec nous éternellement, pas pour entrer et sortir. Cette relation de vie avec Dieu, c'est pour l'éternité. J'ai la vie éternelle. Quand il est question du cep et des sarments, imaginons, vous avez les fibres, le cep est là, les sarments viennent, les fibres végétales vont à l'intérieur du cep et les fibres végétales du sarment vont à l'intérieur du sarment, et puis la sève vient du cep et va vers les sarments pour produire les fruits au bout. C'est une union absolument intime. Et si quelqu'un prétend être dans le cep et ne produit pas la vie, c'est qu'il n'y a pas la vie. Alors on le coupe. Parce qu'il n'y a pas la vie. C'est quelque chose qui est faux. Et la vraie question, c'est pas de savoir si on a perdu le salut quand on l'a eu, c'est si on l'a jamais eu. Est-ce qu'on a réellement cru? Est-ce qu'on a réellement accepté? Est-ce qu'on a réellement reçu le Seigneur Jésus? Je ne dis pas ça pour qu'en sortant d'ici, quelqu'un se soit désespéré en se disant « mais est-ce que j'ai assez cru ?» Mais croire au Seigneur Jésus, c'est simple, c'est croire tout simplement qui il est. Il y a un verset, au verset 23 du chapitre 3, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, croire au Fils, et que nous nous aimions l'un l'autre, selon qu'il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui en cet homme. Et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit sur l'Esprit, etc. Donc, d'abord croire au Seigneur Jésus, la conséquence c'est aimer l'un l'autre. La conséquence, c'est garder la parole de Dieu. La conséquence, c'est réaliser que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la conséquence, c'est Dieu demeure en nous et nous en lui. Dans le passage, dans la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, nous, verset 16, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. J'ai appris par la parole de Dieu que l'amour de Dieu a été jusqu'à donner son Fils pour moi. Je connais cet amour parce qu'il me l'a trouvé. Quand j'ai accepté l'œuvre du Seigneur Jésus, j'ai cru vraiment cet amour. Croire l'amour de Dieu, il me semble que ça veut dire d'abord vraiment accepter cet amour en acceptant l'œuvre de Christ pour nous, mais ça veut dire aussi que dans ma vie, tous les jours, je crois réellement que Dieu m'aime. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose de loin, c'est une réalité profonde. Je crois réellement que Dieu m'aime. Quel est le prix, mon frère, ma sœur, quel est le prix que tu as pour Dieu? Quel est le prix que tu as pour Dieu? Tu sais le prix que tu as pour Dieu, Sophie? Tu le sais? C'est le Seigneur Jésus qui l'a donné pour toi. Voilà le prix. La valeur que tu as pour Dieu, c'est ça. La valeur que chacun de nous, nous avons pour Dieu, c'est ça. Quand il a voulu, Jean-Louis, que tu sois sauvé, il a dit, je vais payer avec mon fils. Et c'est pareil pour moi. Mais c'est formidable, ça. Et est-ce que tu crois vraiment que l'amour de Dieu, c'est ça? Mais alors, si tu crois ça, il y a des conséquences dans ta vie. Ça ne peut pas rester neutre. C'est impossible. Bien qu'on a besoin de grandir dans cela. Bien qu'on a besoin d'approfondir. Mais alors, ensuite, il dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, tout à l'heure, on a parlé du fait de sortir vers la lumière. Celui qui demeure dans l'amour et qui reste, qui ne se remet pas à l'ombre, qui n'oublie pas cet amour, qui croit réellement de plus en plus cela. Alors celui-là demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est la réalisation concrète d'une réalité. C'est vivre cette réalité. Ce n'est pas simplement lire ces versets et se dire oui, d'accord, c'est comme ça. C'est une réalité vivante dans notre vie. Alors on comprend bien qu'il y a une croissance, qu'on va grandir là-dedans. Oh, mais que le Seigneur nous aide à être toujours émerveillés par cela. Croire l'amour de Dieu pour nous.
Et ce que Dieu a placé dans nos cœurs avec la foi, croire à l'amour, est quelque chose qui est pour l'éternité. Tu l'as dit tout à l'heure, j'aimerais revenir dessus, parce que quel est celui d'entre nous qui n'a jamais eu de doute? Et quelquefois on peut être troublé par des doutes. La parole y répond d'une façon claire. Tu as donné l'explication de la main de Dieu, la main du Seigneur et la main de Dieu dans laquelle nous sommes. La suite, le Seigneur dit, personne ne les ôtera de ma main. Même nos doutes ne peuvent pas nous ôter de la main du Seigneur. Jean chapitre 3, qui croit au Fils aura peut-être la vie éternelle, c'est ça? Allons donc. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Je l'ai aujourd'hui, si elle est éternelle, c'est pas pour l'avoir pendant quelques heures ou quelques jours. Quand même, il faut prendre la parole au pied de la lettre. Romains 8, nous savons que nous ressusciterons parce que nous avons son esprit au-dedans de nous. C'est pas une certitude, ça. Dans Romains, je ne l'ai peut-être pas cité exactement, hein, mais alors lisons-le, ça sera plus sûr. Donc Romains 8, c'est le verset 11, le Christ vivifiera vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Alors c'est quand même des certitudes de l'écriture qui sont indiscutables dans la manière dont Dieu les a écrites dans le texte sacré. Puis alors dans notre passage, on en a une de plus, donc on est dans la première de Jean au chapitre 4, c'est le verset 17. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Dieu nous donne toute assurance au jour du jugement. Jour du jugement, c'est pas aujourd'hui, hein. Mais c'est le jour où il faudra faire le point devant Dieu. Alors, bon, c'est un sujet qui est un peu long à développer. Peut-être, je rentre pas dans les détails maintenant. Mais il est question d'être manifesté devant le tribunal de Christ. Il est question de savoir, je dirais avant l'éternité dans le ciel avec Christ, ce que Christ pense vraiment de nous. et ce qu'il pense de nous, c'est qu'il nous a entièrement sauvés. Et à cause de cela, nous pouvons avoir de l'assurance. Fin de juge, il peut nous placer devant lui irréprochable avec toute assurance de joie. Alors la pensée du tribunal de Christ est assez sérieuse, parce que quand même on sera manifesté, on sera devant Christ, et quand on y pense personnellement dans le secret de son cœur, connaissant ses faiblesses, bon, c'est sérieux, mais en même temps, et ça ne se contredit pas, hein, nous aurons de toute assurance ce jour-là, et pas à cause de ce que nous sommes, à cause de la perfection de l'amour qu'il nous a donné dans le don de Christ, dont le sang nous couvre devant Dieu. Alors ça, c'est une certitude. Dieu dit que ce jour-là, j'aurai de l'assurance. Est-ce que j'en aurai pas déjà dès aujourd'hui ? Oh, très humblement. Mais confions-nous dès aujourd'hui dans la pleine œuvre de Christ. Confions-nous sur ce que dit l'Écriture et pas sur nos sentiments les jours où nous sommes fatigués ou découragés.
La pensée du tribunal de Christ n'est pas une pensée qui doit nous faire peur. La pensée du tribunal de Christ, c'est une pensée qui nous rend sérieux aujourd'hui et qui motive notre dévouement pour le Seigneur aujourd'hui. On peut lire ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 10, verset 9. C'est pourquoi aussi que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu. Et j'espère aussi que nous avons été manifestés dans vos consciences. Et un peu plus loin, verset 14, car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. C'est une motivation pour être agréable au Seigneur Jésus. Mais pourquoi avoir peur? C'est le tribunal de Christ, et quand je vais me retrouver devant Christ, dans le tribunal de Christ, je serai en face de celui qui est mort sur la croix pour moi. Et qu'est-ce qui va ressortir? Il va ressortir toute la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est une rencontre personnelle. Il est question de désirer le jour de son apparition. Il est disé, en fait, de désirer ce moment-là. Parce que dans ce moment-là, il y aura bien sûr une perte pour celui qui aura vécu loin du Seigneur. Il en éprouvera une perte, nous dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Mais il y a un gain. C'est ce que Christ a produit dans nos vies. Depuis son œuvre sur la croix pour nous, et tout ce qu'il aura produit dans nos vies pour sa gloire. Et puis, qu'est-ce que je mesurerai? Il me semble toute son immense grâce qui fait que il m'a accompagné jusqu'au bout. Et je crois que je le dis au singulier parce que c'est au singulier que nous allons le vivre. Chacun recevra. Mais c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, c'est au contraire, il me semble, quelque chose qui doit à la fois nous motiver et nous enlever la crainte. Il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. L'amour parfait chasse la crainte. Il y a peut-être encore un autre aspect qu'on trouve un tout peu plus loin. Alors d'abord, pourquoi nous avons l'assurance que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Nous sommes liés à lui de telle sorte que lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est lui? Il est ressuscité à la droite de Dieu. Il est glorifié, il est en dehors du péché, il en a fini avec la question du péché. Il est là, à la droite de Dieu. et je suis lié à lui aujourd'hui dans ce monde. Et alors, un peu, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. La pensée de Dieu, c'est que l'on ne craigne pas et que l'on soit consommé dans l'amour. Il y a parfois, je ne sais pas, il peut nous arriver une épreuve, perdre un enfant par exemple, et se retrouver en fait à ce moment-là face au Seigneur. Et découvrir à travers ce moment-là qu'il y a des fausses questions que Dieu ne veut pas que l'on se pose. Souvent quand on se trouve là, on va se dire pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a ce piège-là. Mais pourquoi il m'arrive ça à moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur me punisse ? Ou quelqu'un, si moi je ne me le dis pas, quelqu'un va venir me le souffler à l'oreille. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La question de Dieu, c'est pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que tu... Pourquoi, en deux mots ? Dans quel but ? Quel chemin ? Et je crois que le vrai chemin, là, on le trouve dans, quand il est question de l'épreuve de notre foi, dans la première épître de Pierre, l'épreuve de notre foi soit tournée à louange, gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ. Je me souviens d'un frère qui passait à Bordeaux, c'était en 78, il y avait eu un deuil très, très difficile, et ce frère nous avait parlé sur ce passage, et il nous avait dit ceci, je ne l'ai jamais oublié, et ça m'a été beaucoup utile aussi. Dieu, dans ses épreuves, dans ses difficultés, il met entre nos mains quelque chose de sa gloire à faire briller. Et de la manière dont tu vis cette épreuve-là, de cette manière-là, c'est quelque chose que Dieu te met dans ta main pour que ça tourne à louange, gloire et honneur à la révélation de Jésus-Christ, pour la gloire du Seigneur. Et je vais vous raconter une histoire. Une petite fille, pas très longtemps, qui a 6 ans. Alors, elle avait une petite camarade qui venait à un club biblique avec une de ses amies. Elle était un jour, les parents de cette petite fille, cette petite camarade, ont décidé de ne plus l'envoyer au club biblique et de l'envoyer ailleurs. Alors la petite fille, elle est quand même un peu ennuyée. Puis tu sais, elle lui dit, si jamais on te dit que Dieu te punit, ce n'est pas vrai, tu le crois pas. Parce que Dieu ne punit pas. Vous savez, punir, quand tu vas être puni, tu es puni, quand tu auras fait ta punition, alors tu pourras être pardonné. C'est ça la punition. Et alors on a demandé à la petite fille, mais pourquoi alors Dieu ne punit pas ? Elle dit, mais il a puni le Seigneur Jésus sur la croix, il ne va pas punir deux fois, c'est pas juste. Et ça, c'est une chose qui est une belle leçon donnée à un petit enfant. Notre Seigneur Jésus-Christ a porté la punition de nos péchés sur la croix. Et Dieu est juste. Il a porté la punition de nos péchés sur la croix parce que Dieu nous aime. Il a porté la punition de nos péchés sur la croix parce que Dieu est juste. Et comme Dieu nous aime, et comme Dieu est juste, il ne fera pas peser sur nous la punition d'un péché qui est déjà pardonné, qui a déjà été condamné sur le Seigneur Jésus. Et alors il n'y a pas de crainte dans l'amour. Nous avons de l'assurance, non seulement pour le jour du jugement, pour l'avenir, mais aujourd'hui. Et si nous passons par une épreuve, une difficulté, des choses difficiles, et il y a des choses difficiles sur la terre, ce que le Seigneur désire, c'est que nous apprenions à nous reposer sur lui sans jamais douter de son amour.
Il y a aussi une compréhension pratique de ce début de verset 18, puisqu'on parle d'amour entre frères. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Et souvent, on craint les hommes, on craint de faire quelque chose et que ça nous retombe dessus. Et en fait, cette crainte des hommes dans nos relations interassemblées, ça arrive, Là, le verset nous dit, ça vient d'un manque d'amour. Soit tu n'aimes pas tes frères, soit tu as mis comme a priori qu'eux ne t'aiment pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette crainte. Alors, la fin du verset nous dit, l'amour parfait chasse la crainte. L'amour parfait, c'est l'amour du Seigneur Jésus pour nous et pour mon frère. Alors, il faut à tout prix que je m'inonde de l'amour du Seigneur Jésus pour aimer et pour comprendre mon frère, et puis que je sache que le Seigneur Jésus aime mon frère pour pas avoir de retenue peut-être inutile à son égard.
Donc on a vu tout à l'heure au verset 9 l'amour de Dieu pour nous. Ah, ça c'est merveilleux d'être aimé de Dieu. Et puis, au verset 12, on a lu « Son amour est consommé en nous ». Donc cet amour dont on est aimé, on va pouvoir non seulement vivre de cet amour, mais toute notre vie va transpirer de cet amour et on va aimer. On va aimer comme il a aimé. Et ça c'est le présent, Elie nous parlait du présent tout à l'heure. Puis on pourrait se dire « Mais demain, si ma vie change, on nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais quand même. » Alors, on a cette expression, verset 17, hein, « Ceci est consommer l'amour avec nous », en tout cas dans la version d'Arby, « avec nous ». Alors, en nous et avec nous, nous accompagne jusqu'au bout, jusqu'où ? Là-haut, jusqu'à l'éternité, il nous accompagne. Et ça, c'est sûr. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a demandé avant de partir. Regardez, dans Jean 17, qu'est-ce qu'il a demandé pour l'avenir ? Il a demandé exactement ça. Dans le chapitre 17, au verset 22, il demande à son Père, « Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette union parfaite entre Dieu et nous, entre Christ et nous, entre Christ et Dieu, nous accompagne jusqu'à dans l'éternité. Pas de crainte. Mais pas de crainte. Un jugement, il y en aura un, oui. Ah, il y en aura un sur la terre. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas en Christ en ce moment, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas cru, ah ben, il peut avoir peur. Vraiment, il peut avoir peur. La crainte, là, dont on a parlé, cette frayeur, il a raison d'avoir peur. Parce que ce jugement qu'il a porté sur son Fils à la croix, si tu le refuses, si tu n'en veux pas, il est dit, la colère de Dieu demeure sur toi. Dieu est amour, oh là là, on a dit, Dieu est amour. Mais pour que cet amour soit vrai, Dieu est juste. Juste envers son Fils. Si tu le méprises, tu prends tout. T'as raison d'avoir peur. Mais nous, pas de crainte. Par contre, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a fait semblant. Il a fait partie de la compagnie des esclaves du maître. Il a été à des réunions, il a parlé chrétien, il en a parlé peut-être même quelquefois à ses camarades, oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il pensait de ce Dieu dont il parlait ? Regardez, on va lire ça ensemble. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19, ou alors dans Matthieu au chapitre 25. Il y a plusieurs esclaves, il y a un maître qui est parti, c'est le Seigneur Jésus. Il laisse du travail à ses esclaves, c'est-à-dire ceux qui veulent bien faire partie de ce domaine où on obéit à ce maître qui est Jésus. On veut bien en faire partie. Et puis il y en a un parmi les trois qui sont donnés. Nous trouvons ça au verset 20 du chapitre 19 de Luc. Il y a un autre 20 disant: « Maître, voici ta mine que j'ai déposée dans un linge, je me suis bien appliqué, hein, car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. tu prends ce que tu as mis et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il dit, je te jugerai selon ta propre parole. Ah, il ne connaît pas bien l'amour, celui-là. Il ne le connaît pas. Il en parle. Il a voulu adhérer. Mais il ne le connaît pas. Tu es un homme sévère, qui juge, qui est méchant, finalement, qui demande des choses impossibles. Je n'ai pas pu tenir, finalement. Mais j'ai gardé ce que tu m'as donné. Eh bien, Matthieu dit, il va dans les tourments, celui-là. Tout ça pour dire que, oui, le contraire de l'amour, quelquefois on dit c'est la haine, peut-être, mais là c'est la crainte. Ça veut dire que quand on n'est pas dans cet amour de cette relation de l'enfant avec son père, eh bien oui, la crainte a sa raison d'être. Mais ici, justement, l'amour parfait chasse la crainte. Cet amour qui est vécu jour après jour dans cette relation de cet enfant avec son père chasse la crainte. Ça n'est pas pour moi cela. Ça existera. Ce n'est pas pour moi. Et cela, on doit s'en souvenir. Pas seulement pour notre futur, mais aussi quand même pour notre présent. Et c'est vrai qu'il y a peut-être parmi nous des gens, on en a un peu parlé, qui peuvent quelquefois avoir un peu peur de ce Dieu qui me voit, qui voit dans mes pensées et ne sont pas belles mes pensées. Alors, va-t-il punir ? Alors, heureusement, le châtiment, voilà, on en a parlé, mais quand même, attention, découvrons ce Père qui veut nous donner quelques corrections quelquefois quand on ne marche pas bien, mais c'est pour notre bien, c'est jamais pour un jour de jugement. Il n'y aura pas de jour de jugement pour ceux qui sont les enfants de Dieu.
Alors la crainte de Dieu, on vient d'en parler, et puis il y a aussi la crainte du monde, et je crois qu'il y a une allusion à ce sujet. C'est dans la fin du verset 17. C'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Alors le chrétien dans le monde, ce n'est pas une promenade de santé, c'est aussi un témoignage à rendre. Et si on s'en réfère à Jean 15, la suite c'est que l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si vous étiez du monde, nous dit le verset 19, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Alors qu'y a-t-il de plus important pour nous ? Nous avons été prédestinés, choisis par Dieu, choisis par le Seigneur Jésus. Et il nous a enlevé la crainte de comparaître devant son jugement. Alors aurions-nous à craindre le monde maintenant pour rendre témoignage de lui? Alors si je dis cela, c'est aussi pour les plus jeunes qui peuvent être l'objet de moqueries à l'école, au lycée, et qui ont peur de rendre témoignage. Mais sachez que le Seigneur vous aime et qu'il vous donnera toutes les forces nécessaires pour rendre témoignage.
Et pour avoir une certitude, on peut le trouver écrit d'une autre manière dans Hébreux 6. Concernant cette crainte que certains pourraient avoir au jour du jugement. Celui qui écrit cette épître aux Hébreux, même si c'est sur un autre thème, dit ceci au verset 17. Dieu voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce qu'il nous est dit, dans la relation qu'on a de demeurer Dieu en nous, nous en lui. Aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de son conseil est intervenue par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une ferme consolation. Nous qui nous sommes enfuis du judaïsme pour saisir l'espérance proposée dans le Seigneur Jésus, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme sûre et ferme et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur, c'est-à-dire qu'il est le premier avant d'autres, précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Voilà cette promesse qui est faite à des héritiers de la promesse eh bien, c'est une encre de l'âme, de savoir que le Christ est là-haut, il est arrivé, et nous allons le suivre bientôt.
Verset 19, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Le texte dit nous aimons. Le L, l'apostrophe, a été, c'est juste, c'est la pensée. Mais d'une façon plus générale, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Nous l'aimons à lui et nous aimons les autres aussi parce qu'il nous a aimés le premier. Plus haut, on avait lu en ceci, verset 10, c'est l'amour, non ce que nous ayons à aimer Dieu, mais en ce que lui nous aima. Il nous a aimés le premier alors que nous étions si loin de lui. Et on l'a déjà dit, mais ça vaut peut-être la peine de le répéter. Son amour est basé et à sa source en lui-même. Son amour n'est pas conditionné par ceux qu'il aime. Et il nous a aimés le premier. Alors la conséquence, ayant reçu cet amour, étant les objets de cet amour, la conséquence, c'est nous aimons. Ce n'est pas parce que nous avons fait de grands progrès que nous sommes des chrétiens de qualité supérieure. Non, 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 non. C'est quand nous avons plus nous mesurons ou nous goûtons son amour, nous comprenons qu'il nous a aimés le premier sans raison en nous-mêmes. La vraie raison, c'est lui. Alors, la conséquence, c'est aimer. C'est obligatoire. Si je n'aime pas, c'est que j'ai oublié quelque part l'amour dont je suis aimé. Ensuite, il y a les travaux pratiques. On peut faire des beaux discours dans la théorie. Quand on se trouve nez à nez avec le frère ou la sœur qui est insupportable, et que, parce que ça existe, hein, alors j'aime Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et puis haït son frère, il me semble que il y a une chose étonnante dans la parole de Dieu, c'est, et dans les écrits de Jean, la manière dont Dieu a dirigé l'apôtre Jean par son esprit, c'est tout d'un coup, alors il présente des choses qui nous fait du bien, etc., et puis tout d'un coup il envoie le petit truc là qui te pique bien au bon endroit et qui te dit attends, ne t'endors pas, où en es-tu toi? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On a fait allusion tout à l'heure dans le chapitre 2 où si quelqu'un dit que les différents tests, si quelqu'un dit je suis dans la lumière et puis il marche dans les ténèbres, il y a un problème. Et Dieu ne nous laissera pas, et ça c'est son amour, il ne nous laissera pas nous faire des illusions sur notre situation personnelle sans que nous soyons mis dans la lumière, mis en face de ce que nous sommes, pour que cette question-là soit réglée et que nous fassions des vrais progrès. Et ça, c'est...
On a un mot très fort, il est menteur. Dans le chapitre 2 et au verset 4, il est menteur. Ah tiens, quand est-ce qu'il est menteur? Dans le chapitre 2, verset 4, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur, et la vérité n'est pas en lui, c'est-à-dire la connaissance du Seigneur Jésus n'est pas en lui. Comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, si je n'obéis pas et que je dis que j'aime Dieu, je suis menteur. Si je dis que j'aime Dieu et que je haïsse mon frère, je suis menteur. Et peut-être que, voilà, c'est Jean, c'est noir ou blanc. Hein, c'est toujours comme ça. Alors finalement, sans pas spécialement concerné, parce que moi, j'aime pas tout le monde, mais je hais personne. Donc ça va, hein, c'est bien. Je termine bien l'après-midi. Mais comment est-ce que nous percevons nos frères? Il y a plusieurs manières, peut-être, avant d'arriver à la haine. Peut-être déjà on pourrait ignorer son frère. t'arrive ne m'intéresse pas, je ne le dis pas, mais finalement je fais comme si. Telle manière qu'il y a des personnes qui, en quelque sorte, restent un peu sur le bord du chemin parmi nous, ne savent peut-être pas crier leur détresse. Mais voilà, vous savez cette parabole du Samaritain ? On le regarde, ou même pas, on tourne la tête, c'est gênant, et on avance. Ignoré. Deuxième manière, c'est mépriser son frère. Tu vaux pas grand-chose, tu sais. Depuis le temps qu'on te dit les choses et que tu... Non, vraiment, franchement, t'es pas quelqu'un d'intéressant. Et puis tout ce que tu entreprends, regarde où ça va. T'arrives jamais au bout. Mon pauvre. Ça, c'est encourageant, hein. C'est de l'amour. Troisième manière, à mon frère, un boulet, ce frère. Je me le traîne, j'en peux plus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors après, troisièmement, un ennemi. Parce qu'haïr, c'est un ennemi. En réalité, c'est un rival. Quelqu'un, pas complémentaire, ça serait formidable. Non, avec qui on va s'opposer. Si tu grandis spirituellement, tu vas me faire de l'ombre peut-être. Tu vas m'empêcher d'être ce que je voudrais être. Alors je vais faire de sorte que tu restes, écrasé. C'est pas haïr dans le mot, vous savez le sens haïr, hein, on se dit j'ai envie de te tuer, tiens. Mais finalement, si je t'empêche de devenir un adulte, peut-être que je vais te tuer moralement. Donc voilà, c'est des choses qui pourraient nous arriver. Alors l'amour. Est-ce que je suis prêt à me mettre à ton service, comme tu es, tel que tu es, prendre du temps, plus que du temps, m'approcher de toi pour être auprès de toi, celui dont tu as besoin sans doute pour devenir cet adulte qui va avoir ce témoignage, qui va être à la gloire de Dieu, où tu vas pouvoir jouir de cette paix, de cette joie, de cet amour vraiment. Oui, t'apporter quelque chose pour que tu sois heureux. Voilà, c'est un peu ça que nous dit Paul dans la fin de ce paragraphe.
Lors de ces deux versets, il y a cette expression, donc il haïsse son frère, il n'aime pas son frère. Et verset 21, nous avons ce commandement de sa part que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il n'était pas dit aimer les frères ou aimer le frère, mais son frère. Celui qui au fond est proche, c'est le mien. C'est pas le frère en général, c'est mon frère. Et on a parlé tout à l'heure un peu du pardon, c'est une autre dimension, mais dans la parabole des esclaves, il est dit, il y a une expression, il est dit ceci: celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant: use de patience envers moi. Et un peu plus loin, le maître dit à l'esclave qui a refusé de pardonner: tu aurais dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. Celui qui est esclave avec toi. Et puis au verset 31, les autres, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, vers le maître. Ils sont au même niveau, ils sont au même point, ils sont sous le même maître. C'est une autre relation, ce sont des esclaves. Mais là, son frère, quelle est la relation? C'est la famille. Qui est le père? C'est notre Dieu. Des enfants du même père. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis qu'il est ton père, et tu n'aimes pas celui qui est engendré par ton père, ton frère. Et alors le verset 21 dit: nous avons ce commandement de sa part, de la part de Dieu, que celui qui aime Dieu aime son frère. Vous vous rendez compte? le grand Dieu des cieux et de la terre, celui qui est notre Père, il écrit là dans ce texte, c'est un verset, nous avons ce commandement de sa part. Ça vient de lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère au singulier.
On a souligné à plusieurs reprises que il y avait dans la parole un enseignement, mais que toujours Dieu nous invitait à la pratique. Mais bon, on a remarqué ici une construction de cette première épître de Jean. On le trouve directement, par exemple, aussi dans l'épître aux Éphésiens. Il y a un enseignement qui est donné, mais ici, c'est quelque chose qui se poursuit, qui se répète dans l'épître aux Éphésiens, un enseignement général, et puis après, un ensemble de tests. Et ici, comme la chose est difficile, nous avons un enseignement, puis un test, puis un enseignement, puis un test. Bon, c'est intéressant de lire la première épître de Jean en faisant ce constat-là. Et quand on voit le verset 30, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quand nous l'associons au verset 18 du chapitre 3, enfin n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité, on voit absolument qu'il n'est pas question de théorie ou de connaissance. Je ne peux pas réaliser ce qu'est l'amour de Dieu si je ne mets pas en pratique ce qui correspond à cet amour divin dans sa manifestation. On a vu des expressions très fortes comme « n'est pas de Dieu », « ne le connaît pas ». Eh bien, c'est la même chose. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis rendu, comme on le trouve au début de la deuxième épître de Pierre, participant de la nature divine, eh bien voilà, il doit y avoir nécessairement cette manifestation. Bon, je voudrais dire encore une petite chose, parce que je suis préoccupé avec une question de taille en ce moment, ça ne doit inquiéter personne, mais vous avez remarqué l'importance de la place du Fils de Dieu dans ce que nous avons lu. Et au début du paragraphe, ici, qui commence au verset 15, « Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu. » Il est né à peu près 600 ans après la venue du Seigneur, la naissance du Seigneur, et tout un ensemble qui est dévastateur dans le monde aujourd'hui et qui s'étale de plus en plus, qui parle de Dieu comme Dieu unique. Mais cette unicité de Dieu, présentée là, exclut la possibilité de recevoir Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je voudrais mettre les jeunes en garde en particulier. Je dis que je suis préoccupé parce que je suis obligé de lire un certain nombre de choses, parce que j'ai été confronté avec un certain nombre de questions aussi, interpellé par un certain nombre de personnes. Souvenez-vous, c'est tout ce que je dirais là, de la place du Fils de Dieu dans tout ce que nous avons exprimé. Ne refusez absolument qu'on vous présente un Dieu unique sans qu'il soit question du Fils de Dieu, sans qu'il soit question de l'Esprit de Dieu. Parce que l'enseignement va jusqu'au fait que Jésus est un prophète, et puis il y en a un autre qui est venu après et qui a apporté des choses en enlevant ce qui n'était pas acceptable dans la Bible, en ajoutant ce qui manquait, et par conséquent, c'est la falsification de la parole de Dieu. Souvenez-vous bien de cela, les enfants, si on vous parle d'un Dieu unique, sans qu'il soit question du Seigneur Jésus comme Fils de Dieu, tout ce que nous avons dit aujourd'hui tombe, on ne peut pas jouir de la paix et de l'absence de crainte. Et puis, on n'a pas la vie, c'est un peu plus loin, dans le chapitre 5, dans la même épître. Donc ça, c'est important.
Peut-être aussi encore un mot au sujet de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu versé dans nos cœurs, qui doit rayonner autour de nous, se manifester dans nos vies, dans nos contacts, dans nos échanges. Et peut-être aussi lire ce passage d'1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul nous rappelle que si nous avons toute la connaissance, si nous parlons les langues, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On voit donc combien l'amour de Dieu dans nos vies est important pour que le monde connaisse que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus, que nous nous aimons les uns les autres, que nous sachions le manifester dans ce monde.